c'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Un anneau ? Un bijou ?
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Autruche, l'émission qui vous fait sortir la tête du sable par les étudiants en master journalisme à l'ESJ Pro Montpellier et à l'université Paul Valéry. Je suis Lou Jourdrin.
Je suis Emma Meyer.
Et nous sommes vos animatrices du jour.
Alors dans cette émission, nous allons parler du CinéMed, le festival de cinéma méditerranéen. En Europe, le cinéma méditerranéen évoque la France, berceau de la nouvelle vague, l'Italie avec son légendaire Cinecittà et ses chefs-d'œuvre néo-réalistes, ou encore l'Espagne avec Luis Buñuel et Pedro Almodóvar.
Alors le cinéma méditerranéen ne se résume pas uniquement à ces pays qui nous sont proches. De l'autre côté de la Méditerranée, des voix vibrantes et revendicatrices s'élèvent, comme celle de la réalisatrice Yasmine Benkiran, réalisatrice franco-marocaine, où une scène cinématographique dynamique se développe.
Alors le CinéMed, ou le Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, c'est un événement culturel majeur consacré à la promotion des cinémas de la Méditerranée. Créé en 1979 à l'initiative de la ville de Montpellier et des passionnés du cinéma méditerranéen, il est né dans un contexte post-68 où les initiatives culturelles locales et régionales cherchaient à se réinventer. L'idée était de mettre en lumière les cinématographies des deux rives de la Méditerranée, souvent peu représentées dans les circuits traditionnels, en offrant une vitrine à des œuvres qui explorent les réalités sociales, politiques et humaines de la région.
Le CinéMed permet de découvrir des productions souvent peu distribuées tout en offrant des débats, des masterclass et des rencontres avec les cinéastes. Pour cette 46e édition, le CinéMed a l'honneur d'être parrainé par l'acteur et réalisateur franco-algérien Reda Kateb, interprète de Django mais aussi d'Abdel dans Hippocrate, rôle qui lui vaudra un César. Comme chaque année, le festival met en avant le dynamisme de la jeune génération méditerranéenne et cette année, c'est l'audace du jeune cinéma marocain qui est mis à l'honneur. À l'affiche de ce beau programme, une rétrospective sur la filmographie du cinéaste italien Luigi Comencini, ainsi qu'une exposition photo.
Nous reviendrons sur ce rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma et de la Méditerranée avec nos invités, Christophe Lepard, directeur du CinéMed, et Charles-Élie Jardin, médiateur culturel de l'événement. On écoutera aussi Clara, qui décryptera la montée du cinéma féministe au Maghreb, puis Renan nous fera découvrir 48 heures du cinéma. Enfin, nous écouterons Louis et Léo pour leur chronique spéciale photo de presse.
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Non ! C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bonjour, Christophe Leparc. Bonjour, Charles-Élie Jardin.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement directeur du CinéMed et médiateur culturel de l'événement. Comment vous sentez-vous à l'aube de cette nouvelle édition ?
Eh bien, on flippe. Parce que tout le travail qu'on a fait depuis un an, qui est de construire cette édition du festival, eh bien voilà, maintenant, ça va être entre les mains des spectateurs, des spectatrices, des auteurs qu'on a invités. Et on espère que l'adhésion du public va encore être présente à notre proposition.
Effectivement, on flippe parce qu'on est une équipe. Et ça, c'est quand même très chouette d'avancer dans une aventure collective comme celle-ci, jusqu'à, comme le disait Christophe, la rencontre du public avec nos invités. En vrai, on est très, très stimulés et on a hâte.
Monsieur Leparc, ça fait maintenant 10 ans que vous êtes pilote de ce projet. Comment est-ce que vous avez vu CinéMed évoluer au fil des années ? Et est-ce que c'est un festival qui compte sur la scène nationale ?
Ah oui, pour commencer par votre dernière question, oui, c'est un festival qui compte. En fait, le festival est né, comme vous le disiez, en 1979, et c'est vrai que les cinématographies de la Méditerranée étaient assez peu représentées dans les circuits classiques. Et petit à petit, de par la force du festival, l'émergence de talents de ces deux rives de la Méditerranée, ça a vraiment créé un engouement et oui, un intérêt pour ces films-là aussi, et pas seulement pour les films français ou américains. Si bien que les circuits classiques, même si c'est des circuits d'art et essai, bien souvent, se sont emparés de ces films-là. Et maintenant, les films méditerranéens, on en voit dans les salles très, 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 très régulièrement. Je pense qu'au dernier festival de Cannes, par exemple, il y avait pas moins d'une trentaine de films provenant du bassin méditerranéen. Donc, ce qui ne veut pas dire que le festival n'a plus sa raison d'être, mais au contraire, nous, notre travail de défrichage se fait toujours, et notamment au niveau des jeunes talents, à travers le court-métrage et le documentaire, mais aussi de remettre en avant la richesse du patrimoine cinématographique de la Méditerranée. À travers les rétrospectives, cette année, Luigi Comencini, c'est un moyen aussi de dire au public, regardez la force de talent cinématographique du bassin.
Comment vous la résumeriez, cette édition? Quel a été le fil conducteur de votre sélection?
Alors, il n'y a pas de fil conducteur a priori. C'est ensuite, a posteriori, parce que bon, je parlais de rétrospective, mais on a aussi donc l'actualité du cinéma méditerranéen avec les différentes compétitions et les avant-premières. Et les compétitions, on reçoit pour le court-métrage, Charles-Élie vous en parlera mieux que moi parce qu'il est dans le comité de sélection, et on reçoit 900 courts-métrages et on en sélectionne 30. Et pareil pour le documentaire ou pour la fiction, on voit quand même presque 500 films pour en sélectionner 8 en compétition et 10 au panorama. Donc la sélection est très resserrée et c'est y a pas de fil directeur sur le coup. En parlant de coup, c'est vraiment, on fonctionne au coup de cœur. Les films qui nous emballent, qui nous plaisent, qui nous chavirent, qui nous émeuvent, ce sont des films qu'on va sélectionner presque spontanément. Et ensuite, quand on a fait notre sélection, on s'aperçoit d'une ligne directrice peut-être. Il y a toujours la présence de l'image de la mer dans la mer MERE dans les films méditerranéens, mais il y a aussi les questions de transmission, de génération qui ressortent des films qu'on a sélectionnés. Mais pour vous répondre, le fil rouge, il ne se décrète que à posteriori, une fois qu'on a fait notre sélection.
Donc justement, le programme, il est publié généralement un peu avant l'ouverture du festival. Est-ce que vous arrivez à sélectionner jusqu'au dernier moment ?
Oui, oui. C'est même une des contraintes qu'on a, parce que tout le monde nous demande le programme au mois de juillet. On est incapable de dire qui seront nos invités, quelle sera notre sélection. Parce que on est à l'affût de ce qui se fait de plus récent, de ce qui se pourrait nous interpeller jusqu'au dernier moment le plus fortement pour proposer au public vraiment le meilleur de la production toute récente et toute chaude.
Donc je vous pose la question à tous les deux. On l'a dit tout à l'heure, pour chaque édition, Cinémed encourage la jeune génération. Et cette année, c'est donc l'audace du jeune cinéma marocain qui est mis à l'honneur. Qu'est-ce qui a motivé ce coup de projecteur cette année ?
Eh bien, c'est une réflexion qu'on a eue sur l'émergence de cette jeune génération depuis 4 ou 5 ans. Où des films très marquants comme Burning Casablanca qu'on avait en compétition en 2020, ou le film d'Asmaé El Moudir, La mère de tous les mensonges, l'année dernière, qui a eu le prix à Cannes du meilleur film documentaire. On s'est aperçu qu'il y avait une jeune génération de cinéastes marocains, dont beaucoup de réalisatrices d'ailleurs, et pas seulement des réalisateurs, qui s'affranchissait d'une certaine autocensure que pouvaient avoir les générations de cinéastes marocains précédentes. Et pour vous dire, ils sont tous entre le premier et le deuxième film. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur premier long-métrage et qu'ils préparent leur second long-métrage. Et donc, on est vraiment dans ce moment où il y a eu révélation à travers les festivals internationaux, mais aussi pour certains en salle. Et maintenant, est-ce qu'ils vont confirmer ? En tout cas, il y a une dynamique qui s'opère entre eux, une thématique aussi différente de ce qu'on peut attendre d'un cliché du cinéma marocain, puisque beaucoup de films de cette génération sont des films de genre, que ce soit comédie, que ce soit fantastique, que ce soit d'horreur. Ils n'hésitent pas, que ce soit le road movie aussi. Donc, ils n'hésitent pas à s'emparer des codes du film de genre pour parler de ce qui se passe chez eux au Maroc.
Et selon vous, Monsieur Jardin ?
Il y avait cet exemple du court-métrage « Qu'importe si les bêtes meurent » qui a reçu le César du meilleur court-métrage en 2020 et où, comme le disait Christophe juste avant, on a une apparition, c'est Sofia Alaoui qui a fait ce film, et on a une apparition fantastique à l'intérieur du court-métrage qu'on va retrouver dans son long-métrage 3 ans plus tard qui s'appelle « Animalia ». Et c'est assez... passionnant, effectivement, de découvrir aussi un pays sous ces petits prismes qui n'est pas un cinéma avant-gardiste, mais qui est une manière de faire dans ce pays qui l'est. Et ça, c'est très, très intéressant et on aime le retrouver. Et en tout cas, toutes les questions qui nous sont posées vont aussi en ce sens, comme vous le dites, pourquoi à ce moment-là, mais aussi comment. Et c'est à ça que ces réalisateurs et réalisatrices vont répondre.
Il est maintenant temps d'écouter la chronique de Clara, qui va nous faire découvrir le cinéma féministe maghrébin.
Bonjour Lou. Et oui, sur les 15 films en compétition dans la catégorie long métrage, 5 sont réalisés par des femmes, mais surtout 3 d'entre eux sont signés par des réalisatrices originaires du Proche et Moyen-Orient.
Et ce sont l'un des seuls du festival.
Oui, on peut rajouter à ça les 6 courts-métrages en compétition, les 3 documentaires et un film diffusé en avant-première, tous à découvrir sur la semaine du 18 au 26 octobre, on le rappelle. Algérienne, syrienne, libanaise, israélienne et palestinienne, mais aussi arménienne et turque, le croissant fertile au complet est représenté, mais cette année c'est surtout le Maroc qui est mis à l'honneur.
Et oui, on en discutait à l'instant.
Tout à fait Lou, et comme le disait Monsieur Leparc, le Cinémède fait place belle aux cinéastes du pays du soleil couchant, en consacrant tout un pan de sa programmation aux courts et longs métrages du jeune cinéma marocain. À l'affiche, une quinzaine de projets dont les 2/3 sont réalisés par des artistes maghrébines. On peut par exemple citer Sofia Alaoui, Ala Edine Aljem, mais surtout Sofia El Khiari, qui diffuse 4 projets différents, tous plus engagés les uns que les autres. L'animatrice maroco-française joue sur les couleurs, les contrastes et même les styles de dessin pour affirmer la liberté de la femme marocaine à tout âge, de toute morphologie. Et tout ça en toute poésie.
Mais ce n'est pas la première à insister sur l'émancipation de la femme au Proche et Moyen-Orient.
Eh bien non, figurez-vous qu'il faut revenir dans les années 60-70 pour trouver les précurseurs de ce mouvement féminin. Pour la petite histoire, Nasser, autoritaire gouverneur de l'Égypte, nationalise les studios de tournage égyptiens, faisant fuir de nombreux réalisateurs du pays vers le Liban, lui en plein essor économique. Parmi ces artistes exilés, on retrouve Youssef Shahin et Henri Barakat, des cinéastes connus et reconnus qui se lancent dans l'adaptation cinématographique des célèbres opérettes de Férouz, la diva arabe du XXe siècle. C'est son histoire qui inspire Shahin et Barakat pour mettre en scène pour la première fois une comédie musicale dans laquelle une diva libanaise chante en dialecte libanais sur des thématiques propres au Liban. On y retrouve par exemple l'opposition entre chrétiens et musulmans qui mènera d'ailleurs à la guerre civile quelques années plus tard. Et après ça, les lignées de chanteuses, actrices, idoles des foules s'en suivent jusqu'à la consécration. En 1974, Annie Sour devient la première réalisatrice arabe à voir son film sélectionné à Cannes.
Et aujourd'hui, leur héritage est bien vivant, n'est-ce pas ?
En effet, en plus des réalisatrices mises en avant par le Cinémède, nombreuses sont des actrices maghrébines à gravir les marches de la Mostra de Venise ou en encore de Cannes. C'est notamment le cas de Niusha Akshi, Massa Rostami et Setare Maleki, star iranienne du dernier film de Mohammad Razoulov, Les graines du figuier sauvage. Le plus important chez les divas arabes, c'est la portée politique et culturelle de leur message. Et ici, c'est exactement ce qu'on retrouve. La critique parle même de l'hommage le plus puissant aux iraniennes, compréhensible lorsqu'on sait que les trois femmes sont désormais contraintes à l'exil simplement pour avoir joué dans le long métrage.
N'hésitez donc pas à aller voir tous ces films pour soutenir les actrices. Est-ce que vous avez d'autres films féministes à aller voir pendant le festival cette fois-ci ?
Bien sûr, Lou. Mon coup de cœur du festival, c'est Reine au pluriel de Yasmine Benkiran. On est à Casablanca. Zineb, notre héroïne, s'évade de prison pour sauver sa fille de la garde de l'État. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle embarque contre son gré Asma, conductrice de camion. La police aux trousses, les trois femmes se lancent dans une cavale dangereuse mais amusante qui nous laisse avec une vraie envie de road trip. Un film à ne pas louper au Cinémed.
Merci Clara pour cette chronique. Pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre en avant les projets des réalisatrices maghrébines ?
Parce que ce sont des voix qui s'élèvent et qui nous racontent d'autres histoires. L'année dernière, on avait fait quelque chose avec les cinéastes catalanes, mais aussi sur la féminisation de toute l'industrie cinématographique en Catalogne. Et on s'apercevait que le succès de certains films de ces cinéastes venait de récits différents. Et ça, c'est très important que ces voix puissent s'exprimer parce que, en fait, on a affaire à une autre forme de récit, à d'autres histoires. Alors, est-ce que c'est exclusivement féminin ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que ces cinéastes femmes nous racontent autre chose autrement. Et donc, pour le cinéma, d'une manière générale, c'est très important d'avoir ces nouvelles voix. Peut-être le female gaze, oui.
Alors le projet, il a une forte implantation locale à Montpellier. On sait que depuis une dizaine d'années, cette ville a fait le pari du cinéma pour se développer avec l'installation de nombreux studios et l'accueil d'énormément de tournages. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien Montpellier et le Cinémed ? Est-ce qu'il y a un terrain, un public particulier ?
Un public particulier, ça commence déjà par les étudiants, donc tout l'apprentissage qui est fait, même avant. Nous, on accueille des enfants à partir de la maternelle, des collégiens. Il y a un stage classel avec des lycéens, donc il y a vraiment des liens qui se tissent entre Cinémed, ses habitants et ses futurs acteurs de ce microcosme qui finalement n'en est pas un depuis le début. Ensuite, Montpellier effectivement a fait le pari d'accueillir beaucoup de studios, beaucoup de nouvelles écoles, que ça soit sur de la fiction, du documentaire, de l'animation 3D, et on voit que ce vivier aujourd'hui a une forte reconnaissance, y compris à l'international. Donc la place de Cinémed là-dessus est bien évidemment d'accompagner ces écoles, à la fois en les valorisant, bien sûr, mais aussi en montrant à leurs étudiants des films qu'ils n'auraient vus nulle part ailleurs. Et ça, c'est l'une des missions aussi principales du festival, aller chercher les films de Luigi Comencini, par exemple. C'est des films qui ont été vus très rarement, mais aussi l'extrême actualité avec des courts-métrages qui ont été réalisés jusqu'à mars, avril 2024. Donc ce lien-là, c'est un lien qui s'est renforcé, je crois, Christophe, depuis 10 ans maintenant, et qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire, non pas d'entretenir, mais de faire évoluer vers cet avenir fort où on va voir apparaître ces jeunes sur nos écrans demain.
Une initiative plus locale, justement, Renan, l'un de nos journalistes, a eu l'occasion de suivre les Girafes sans tête, une des 52 équipes participantes aux 48 heures du Cinémed. La plupart des membres de cette équipe avaient fait partie de l'équipe victorieuse de l'année dernière et ils remettent ça. Le principe, les participants ont 48 heures pour écrire, tourner et monter leur film avant de le rendre officiellement au jury. Petite difficulté supplémentaire, chaque équipe se voit imposer 3 contraintes. Alors Renan, comment s'est passé le week-end ?
C'était un week-end intense parce que les Girafes l'ont bien compris. L'enjeu n'est pas moins une originalité scénaristique qu'une qualité technique. L'équipe d'une dizaine de personnes a travaillé sans relâche tout le week-end. Intitulé Accendino, briquet en italien, ce court-métrage est l'œuvre de Clément, réalisateur, et de Gabriel, directeur de la photo.
C'est vendredi soir à 19h que les contraintes sont annoncées.
Les girafes, le genre majeur, donc ça va être l'action. Ensuite, le genre mineur, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le giallo. Et enfin, la contrainte cinématographique, ça va être... Le film comporte une seule unité de temps. Du coup, votre phrase, qu'est-ce que ça va être? C'est « Sur un malentendu, ça peut passer !»
En direction de chez Clément, désigné réalisateur, les idées fusent déjà.
Après, on essaie juste d'incorporer une petite séquence d'action dedans, soit une course-poursuite, soit une...
Mais il faut faire attention à bien cerner les différentes contraintes, comme le giallo, qui est un genre moins répandu.
Ouais. Franchement, c'est que des films que je ne connais pas.
Ouais, c'est
pas... C'est parce qu'on regarde tous les jours, quoi.
On est vendredi, il va être 22h10. Clément, qu'allez-vous faire ce soir?
Alors, on a fini tout ce qui est brainstorming et récupérer les idées de tout le monde. On a fait aussi un ou deux, trois points techniques, que ce soit avec le monteur Dorian pour lui donner l'ambiance du film. On a fait aussi un point avec Antoine pour lui dire ce qu'il aurait comme caméra, comment ça s'utilise, dans quelles conditions il va les utiliser, combien il a de batterie, enfin des trucs techniques. Et là, du coup, on a déjà jeté la plupart des gens dehors, les comédiens, etc. Et du coup, là, avec toute l'ambiance qu'on a décidé, la DA, on va vraiment écrire le film.
Le lendemain, 18h, l'équipe technique et les acteurs arrivent à Antigone pour installer le tournage sous la pluie. Le scénario peaufiné, il faut tout de même penser à la musique, élément essentiel d'un giallo.
Du coup, je vais faire pas mal de musique, un peu de sound design, de mix probablement, donc un peu tout ce qui touche au son. Et du coup, pour le moment, en référence, j'ai eu une scène de Suspiria avec une musique un petit peu expérimentale. Évidemment, la musique risque de se préciser beaucoup plus une fois l'image, mais voilà, du coup, le travail commencera très tôt, à 7h.
Côté technique.
Ce matin, on a essayé de préparer le plus de choses possible. On ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'on tournait la nuit, mais on a quand même un peu attaqué le générique. On a préparé tout le matériel pour ce soir. Et après, nous voilà. Et on a eu 2-3 petits problèmes depuis jusque-là, mais on n'est pas si en retard que ça, en fait, ça va plutôt bien.
Après une courte pause pizza sur le pouce, pas de temps à perdre, le tournage doit reprendre.
Là, on a fini toute la première séquence. Là, on attaque la séquence 2, où on a une sorte de course-poursuite entre les deux personnages. J'espère que, du coup, vers minuit, on pourra attaquer la troisième séquence, qui est la séquence de fin. Et après, on reviendra à la toute fin, une séquence qui vient en fait au début. J'espère honnêtement qu'on sera chez nous à 3h du matin.
Zippo, scène 2, plan 1, take 2. Zippo, scène 1, plan 1, prise 4. Zippo, plan 1, scène 1, plan 1, prise 1.
L'intention là, les gars, vous voulez que ce soit pareil, toujours qu'on tenu, un peu énervé, tension.
Ouais, tu poursuis scène de tension. Calmement.
Ouais, c'est ça, mais en fait, vif. Moi je trouve que les psychopathes dans les films, quand ils sont un peu comme ça, ils ont une régularité dans le pas.
Voilà.
C'est-à-dire qu'ils vont avoir un pas, mais il est tellement constant.
Ils sont pas perturbés en fait.
Chaque scène est jouée plusieurs fois, pour préciser le jeu, les actions, mais aussi pour filmer différents plans.
Allez, en place s'il vous plaît les amis, on se concentre, chacun dans son rôle.
Moteur.
On se réveille,
ça tourne au son. Ça tourne à la caméra.
Scène finale, plan séquence rapproché. Action.
Dimanche, la montre affiche 7h et c'est un clap de fin pour un tournage commencé à 18h.
Ça fait une petite journée de 13h.
Et alors comment ça s'est passé?
Relativement bien quand même, parce que malgré la pluie, les gens, les problèmes techniques, au final, je pense qu'on a un film complet. Je crois pas qu'on ait oublié de plan dans le découpage, même si on s'est un peu arrangé avec ce qu'on avait prévu à la base, hein, comme toujours. Je pense qu'en montage, on devrait avoir un film pas trop compliqué à monter. Après, vu qu'il est 7h du mat, ça se trouve j'ai tort, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, on est content, on a des belles images.
Directement après le montage, Clément, qui n'a pas dormi, a passé la nuit à faire de la post-production. Colorimétrie, son, effets spéciaux, générique, les diverses tâches sont réparties dans le groupe. Chacun a sa spécialité, ce qui permet un gain de temps. Remis à 19h59, l'équipe s'offre une avant-première. Elle est fière de son chef-d'œuvre et ça s'entend. Pour savoir si les girafes remporteront un prix, rendez-vous au Quorum le 21 octobre.
Alors vous, est-ce que vous suivez un peu ces 48 heures? Est-ce que c'est un bon outil pour amener les jeunes ou les moins jeunes à faire du cinéma?
Alors, au-delà de les suivre, on les soutient, on les appelle, on les stimule, on les accompagne. C'est la Moon Street Film cette année qui porte ce projet. C'était déjà le cas l'année dernière. Ça fait 4 ans qu'on propose un 48 heures à Cinémed maintenant. Et en réalité, c'est quelque chose de très attendu aussi pour nous, équipe, puisqu'on peut découvrir ce que sont capables de faire des jeunes et aussi moins jeunes, puisqu'il y a des réalisateurs, réalisatrices expérimentés qui y participent en un temps record. Et ça nous permet de connaître, de mieux connaître et de percevoir le vivier local qui est présent. Donc bien sûr, on soutient ces démarches, on essaie de les accompagner au mieux et on a hâte aussi de vivre cette expérience en salle, puisqu'on n'a pas, nous, de regard sur les films. Il y avait 40 équipes cette année qui étaient sur la ligne de départ. Seuls 15 films seront présentés à la séance du lundi 21 à 22h en salle Einstein. Elle est en entrée libre, n'hésitez pas à vous y rendre.
Maintenant, nous passons à la chronique photo de presse de Louis et Léo, qui, à travers une photo de l'AFP, nous parleront de l'actualité du moment.
C'est embêtant, dans les oiseaux, c'est les mecs.
L'autruche.
Bon alors Léo, qu'est-ce que tu m'amènes pour ce premier rendez-vous photo ?
Eh bien figure-toi Louis que je t'ai apporté une superbe photo de Mahmoud Hams.
Le photographe Gazaoui qui a remporté l'un des prix Bayeux ce mois-ci.
Exactement. Il a remporté le prix des correspondants de guerre pour son travail réalisé dans la bande de Gaza du 7 octobre jusqu'en février dernier.
Mais cette année, il a aussi remporté le prix Visa d'Or News, il me semble.
Tout à fait. C'est la même série photo qui a été récompensée à Perpignan. Cette année, 3 photographes palestiniens ont été mis à l'honneur. Je pense que tu as dû entendre parler de la polémique avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui fait partie du Rassemblement National.
Ah oui, il a refusé de remettre en main propre le prix à l'un des photographes palestiniens.
En effet, il n'a pas voulu remettre le prix Visa d'or de la ville de Perpignan à Loaï Ayoub en déclarant qu'il était trop proche du Hamas.
Et pour en revenir à notre fameuse photo de presse, pourquoi tu me l'as amenée aujourd'hui ?
Je l'ai choisie parce qu'elle capture un moment très particulier du conflit actuel à Gaza. Mahmoud Hams a pris cette photo le 24 novembre 2023, un mois après le début de la guerre et un cessez-le-feu venait d'être mis en vigueur. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'espérais que la guerre s'arrête.
Oui, enfin, sur la photo de Mahmoud Hams, on voit clairement qu'Israël ne voulait pas plier bagage.
Effectivement, au premier plan, on voit clairement des réfugiés palestiniens en situation de détresse sur une route migratoire. Un des hommes a la jambe cassée et un autre est en fauteuil roulant. Dans cette zone désertique qui ressemblerait presque à une décharge, deux énormes chars en file indienne se tiennent derrière des Palestiniens, canons pointés sur eux. On remarque que le photographe a utilisé un téléobjectif. Cela donne un effet d'aplatissement qui enlève toute perspective à l'image. L'impression donnée est que les Palestiniens sont tout proches des chars qui les suivent. Cela renforce l'effet de supériorité de l'armée israélienne vis-à-vis des réfugiés.
Après un an de bombardement, la bande de Gaza est complètement rasée avec 90% des infrastructures détruites. Une estimation de 41 000 morts, dont 20 000 femmes et enfants, sans compter le nombre de blessés et de personnes disparues. Plus de 2 millions de déplacés. Plus aucun journaliste palestinien pour couvrir le conflit sur place. Les journalistes sont soit partis se réfugier dans le pays voisin, comme le Qatar, c'est le cas de notre photographe du jour, Mahmoud Hams, ou alors ils sont sous les décombres. Il faut aussi savoir que l'armée israélienne interdit l'accès dans la bande de Gaza à tous les journalistes étrangers.
Selon RSF, au 1er août 2024, 120 journalistes étaient morts dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il est primordial de promouvoir le travail des photographes de guerre qui risquent leur vie pour illustrer ce conflit. Et comme l'a dit Mahmoud Hams, lors de son discours au prix Bayeux, le monde entier regarde Gaza à travers nos objectifs.
Merci Louis et Léo pour cette chronique. On vient de l'entendre, les journalistes sont aujourd'hui empêchés de faire des images à Gaza. Est-ce qu'on peut imaginer que le cinéma pourra, par le biais de la fiction, reconstruire cette mémoire ? Est-ce que le cinéma est un instrument de paix ?
Définitivement. Parce que le cinéma, c'est donner la parole aux artistes de ces pays, même s'ils sont contraints. L'importance d'un festival comme le nôtre, c'est de leur donner la parole, de montrer les films qui, à la différence de l'actualité, nous montrent les choses d'une manière différente, avec du recul, pas forcément avec du recul, mais en tout cas avec un point de vue artistique. Et le cinéma ne résoudra pas les conflits, mais sans le cinéma et sans l'art d'une manière générale, les conflits ne peuvent pas se régler.
Messieurs, je vous pose la question, est-ce que selon vous, il existe un lien entre la photographie et l'art cinématographique ?
Bien sûr. Le cinéma, c'est juste de la photographie animée, hein, une superposition de d'images qu'on anime. Hein, c'est comme ça que le cinéma est né. Mais vous avez des grands photographes qui sont aussi des grands cinéastes. Je pense à Raymond Depardon. Donc il y a forcément un lien entre la photographie et le cinéma. L'un des postes les plus essentiels après le cinéaste, le réalisateur dans la construction d'un film, c'est quand même celui qu'on appelle le directeur de la photographie. C'est-à-dire, c'est lui qui va composer l'image que veut le réalisateur ou la réalisatrice. C'est lui qui va choisir les tonalités de l'image et qui va donc imprimer une particularité visuelle au film.
Monsieur Jardin.
Ah oui, moi je suis extrêmement d'accord avec ça, et on travaille nous aussi la photographie via le photogramme de film, qu'on construit un atelier d'éducation aux images en lien avec une table mash-up où on choisit des extraits en fait qu'on découpe à l'intérieur de films, et pour le proposer aux enfants, on doit choisir un photogramme. Et donc là, on fait face à 25, enfin c'est énorme la quantité de photos qu'il y a au travers ces images, et on vient en choisir une, et donc on comprend parfaitement le travail photographique qui est fait à l'intérieur. Et personnellement, moi j'ai un directeur de la photographie qui me passionne, c'est Benoît Delby, le directeur de la photographie de Gaspard Noé, qui pour moi fait des choses sensationnelles. Et quand tu entends parler Gaspard Noé, il le remercie sans cesse de donner cette place aussi forte à son travail.
L'Autruche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous retrouverons bien sûr le Cinémaître pour sa 46e édition jusqu'au 26 octobre. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. A très vite et bonne journée sur Divergence FM.
C'est le bipède le plus rapide au monde.
Pas ça ! Non !
Ses articulations et tendons très élastiques génèrent une puissance phénoménale. Il confère au volatile vitesse et foulée bondissante.
Non ! Non ! Non !
Peut-être un corbeau ?
L'autruche est le plus grand oiseau actuellement vivant, mais elle est incapable de voler.
Il est bien connu que les autruches, au long cou, enfouissent leur tête profondément dans le sable quand elles se sentent menacées.
Faire l'autruche, c'est refuser de voir un problème en espérant qu'il s'en aille tout seul.
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs.
L'autruche.